Brassage radio. Aujourd'hui, premier volet d'une émission en deux parties qui va, une fois n'est pas coutume, s'intéresser à l'actualité directe, brûlante. Et cette actualité aujourd'hui, c'est la violence policière, celle des forces de l'ordre. Ce nom a depuis longtemps remplacé le désuet gardien de la paix. Pourtant, au final, on attend toujours que la police protège un peu notre paix, que l'on ne soit pas tué, dépossédé, agressé. L'ordre, c'est la paix. La paix, c'est l'ordre. Si l'ordre règne, vous aurez la paix. C'est le deal du racket étatique auquel nous sommes tous et toutes soumises. Pourtant, chaque fois que la force se fait trop visible, c'est comme si c'était la première fois. Un accident, une bavure. Et pourtant, il suffit de regarder d'un peu près l'histoire de l'institution policière pour voir que la brutalité, la violence, fait partie du métier. C'est une nécessité pour que l'ordre règne et que la paix soit préservée. Et derrière la justice, enfonce le clou. Certainement que l'époque que nous traversons est particulière, parce que depuis 30 ans, les lois sécuritaires multiplient les délits, criminalisent nos existences. Les policiers sont de plus en plus armés, taser, flashball, et aujourd'hui, en plus de ça, un permis de tuer donné par le législateur. Et faut pas oublier que derrière, la justice incarcère à tour de bras, faisant exploser le nombre de prisonniers et de prisonnières. Tout cela, sur fond d'attaque systématique des conditions d'existence, du fait d'une prétendue crise économique qui n'en finit pas et qui n'en finira jamais. Le 19 mars prochain, aura lieu une marche à Paris qui prend place dans une longue construction de lutte contre l'impunité policière. Alors dans ce contexte où finalement il y a une mobilisation croissante contre la police et son ordre, ça peut être intéressant d'écouter Maurice Rachfus, 40 ans. 40 ans qui se bat contre cette institution policière. Comment est-ce qu'il a vu ça? Comment est-ce qu'il voit les choses? En seconde partie, on écoutera Mognist Abdallah qui revient sur une autre marche, celle pour l'égalité et la justice de 83. On touche alors à la dimension raciste, où l'on voit comment les promoteurs de la paix et du dialogue participent aussi de l'enterrement de la critique. C'est peut-être intéressant de revenir là, à 83. Le moment où les socialistes enterrent le socialisme et le Front National commence son ascension. Voilà, donc un peu d'histoire pour contribuer un tant soit peu à la critique de l'institution policière.
Un Français sur deux peut devenir flic, l'autre l'est peut-être déjà. Ça laisse pas beaucoup de place. On a une police qui n'a jamais été aussi brutale, aussi hargneuse, aussi injurieuse dans certaines circonstances que celle dont on dispose actuellement.
Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout.
Entretien enregistré à Toulouse le 29 janvier 2013 à l'occasion de la présentation de son livre Je n'aime pas la police de mon pays, aux éditions Libertalia. Maurice Rachfus est historien, journaliste et militant. Il a milité à la 4e Internationale, à Socialisme ou Barbarie, à Ralph Ron. Depuis 1994, il préside l'Observatoire des libertés publiques et publie le bulletin Que fait la police.
En tout, les yeux en face des troupes, contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez.
connais le métier, le tic-tac-tac-tac-tac du gendarme. C'est de verbaliser avec autorité.
Je les ai connus quand ils m'ont raflé avec mes parents en 42. C'était pas des Allemands, c'était des policiers français. Je les ai connus quand il y a eu les premiers grands mouvements revendicatifs dans les années 50. Et puis je les ai bien connus en 61, à l'époque de Charonne. Parce que j'étais dans la rue à Charonne, maître Charonne le soir, pas loin. Je les ai connus en mai 68. Et j'ai assisté à un déferlement de brutalité, de haine qui faisait que monter constamment. Alors il y a des périodes où c'est plus calme. Par exemple, quand la gauche a gagné les élections présidentielles en 81, Defferre est devenu ministre de l'Intérieur, et bien pendant des semaines, quelques mois, il n'y a pas eu de bavure. Et ça, je peux le constater, j'ai un thermomètre chez moi. J'ai tout ce qui s'est passé en France depuis 68. Eh bien, selon les périodes, il y a plus ou moins de bavures. Eh bien, à partir de mai 81 jusqu'à la fin 81, c'est le calme plat. Et il y a le fameux discours de Marseille de Defferre au mois de juillet 81, où il s'adresse au corps policier, il dit « Les bavures, c'est fini. Les descentes dans les quartiers, c'est fini, etc. » Ça a duré 6 mois, quoi.
D'accord.
Mais il y a quand même des périodes où ça se calme. Mmh, mmh. Ça veut dire que quand on manie le fouet contre ceux qui aiment le manier d'habitude, ça change. La véritable explication de la bavure, je disais ça aujourd'hui sur Radio Libertaire, la bavure, c'est quand deux corps de policiers qui ne se connaissent pas et qui sont en civil se trouvent face à face et se tirent dessus. C'est ça la bavure. Quand il y a acharnement contre des manifestants ou des grévistes ou autres, c'est pas de la bavure, c'est de l'acharnement social ou antisocial qui peut aller jusqu'à l'excès. Parce que quand on balance un gars par terre, après lui avoir passé les menottes, et puis qu'on lui met un genou dans le dos, et puis qu'on lui tire les bras en arrière jusqu'à l'asphyxier, c'est comme disent les policiers qui sont jugés pour ça parfois, ils disent « c'est un geste technique qu'on nous a enseigné en école de police ». Moi, je pourrais formuler une utopie moyenne. On ne peut pas, on ne devrait pas être policier pendant 30 ans, parce que on prend des mauvaises habitudes, on couvre celui qui fait des saloperies. Alors, ce serait bien le type qui veut être policier, c'est un fonctionnaire, il est policier pendant 5 ans. Il n'a pas le temps de prendre cet abominable esprit de corps. Puis au bout de 5 ans, il retourne dans un autre secteur de la fonction publique. Là aussi, ça s'est très mal passé. J'ai été invité à partir plus vite qu'était prévu.
Gérard, vous avez bien tiré, mais absolument mal jugé.
Ouais, c'est la bavure, quoi.
C'est la bavure, très bonne explication, très bien.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de brosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdent en toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez coquignol. En voyant ces femmes Pandore être à deux doigts de succomber, moi je biche et car je les adore. Sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hip 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 hourra. Frénétique l'une de la tâche, le vieux maréchal des logis et lui fait crier
mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie.
Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage, il la dématraque à grands coups de mamelle. Ceux qui passent à sa portée, il tombe. Et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniers, ces furies comme outrage ultime, en retournant à leurs oignons, ces furies à peine si j'ose le dire tellement ses balles leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
J'ai commencé en 68 à mettre en fiche tout ce qui s'est passé en France. Et puis j'ai commencé en 79. À essayer de faire quelque chose qui tenait la route. Je me suis adressé à l'époque, je ne sais pas ce qu'il est devenu, j'espère qu'il se porte bien, au celui qui avait la rubrique police à Libération, Gilles Millet, pour lui suggérer de créer un centre d'information sur les comportements policiers. On m'a souri doucement, c'est-à-dire que le sujet peut être intéressant pour faire un papier, mais pas pour faire une chose suivie. Et puis, il y a eu pas mal de tentatives d'un jour où il y a eu une proclamation, on va s'intéresser au comportement policier. Il y avait un communiqué, puis le lendemain, on n'en parlait plus. En 93, le 6 avril, il y a eu véritablement l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot, du jeune Macomé au commissariat des grandes carrières dans le 18e à Paris. Et on a été... c'était l'appel des 101, où il y avait des écrivains, des journalistes, des dessineux, qui ont lancé un appel en disant « ça suffit, les bavures policières ». Bon. Et puis il y a eu ce communiqué, et puis plus rien, comme d'habitude. Et en avril 94, le 6 avril, un an après la mort de Macomé, avec un ami à moi qui est disparu depuis, on a décidé de créer l'Observatoire des libertés publiques. Et pour être certain qu'on n'en resterait pas à la conférence de presse habituelle, on a déclaré qu'on allait créer un bulletin. Et le bulletin est paru à partir du mois de juin 1994. Et il y a eu jusqu'en 2006 125 numéros. Et depuis, il y a maintenant, on est à 68 numéros sur Internet. On n'a jamais cessé. Je crois qu'il faut être opiniâtre. La difficulté, c'est qu'il y a un public pour s'intéresser à ça, mais il n'y a pas de public pour militer contre ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu au fil des années que les gens s'abonnaient, les gens pétitionnaient, quand on demandait... Une pétition pour la dissolution de la BAC, il y avait des milliers de signatures, mais ça s'arrêtait là. On demandait de recevoir des coupures de la presse de province pour avoir des informations, mais il n'y a jamais eu de volonté de s'agréger à un mouvement. J'ai essayé, ça a duré quelques semaines, de promouvoir, puis c'était assez grand pour le faire eux-mêmes, des observatoires locaux à Marseille, à Saint-Étienne, à Lille, puis ça durait très peu de temps. Alors c'est vrai que ponctuellement, quand il y a une grosse bavure, se crée un comité de soutien, et puis il disparaît au bout de quelques semaines.
Après ce qu'ils ont dit aux infos hier soir, j'ai dit à mes gosses que s'ils voyaient un flic, il fallait qu'ils changent de trottoir. D'ailleurs c'est simple, j'ai toujours fait ça.
Oh, moi j'ai plein de copains qui se font tuer par des flics, d'une balle dans le dos. Et pourtant, je vous assure qu'ils avaient rien fait. Et à chaque fois, pour se justifier, ils disent que ce mec-là avait l'air louche. Ils aiment tuer, en fait. Autrement, ils seraient pas flics. À qui le tour, maintenant, hein?
Ces mecs-là, ils aiment qu'on ait peur d'eux. Ils se sentent plus forts, plus virils. Finalement, sans leur uniforme, ils sont rien. Ils me font pas peur.
Moi, de mon temps, respecter les flics, si on avait vite fait de recevoir un coup de matraque. Pour un oui ou pour un non, on se retrouvait au Newf. Maintenant, ils sont obligés de tuer pour se faire respecter.
Maintenant qu'on sait qu'il y a des fous dans la police, on est encore moins tranquille qu'avant. Entre nous, moi je conseille à mes amis de prendre la fuite. Dès qu'ils voient un policier, c'est plus sûr.
J'ai essayé d'expliquer, sans passer par la caricature, ce qu'était la police de la République. Je dis bien de la République parce que je pense que On entend des fois des hurlements que nous sommes dans un état policier, c'est pas vrai. On vit dans une société policière. Dans un état policier, on serait pas là en train de discuter devant ce micro. Mais la police de notre République, elle a cette spécificité, c'est qu'elle elle n'est pas républicaine. Et qu'elle a tous les défauts d'une police des états totalitaires. Et si on ne connaît pas ici les brigades de la mort, comme il y a eu en Amérique du Sud, c'est qu'il y a des limites qui ont été fixées quand même dans un certain cadre relativement strict, mais que si on les laissait aller à leur bas instinct, ça serait beaucoup plus grave. Quand je dis ne pas laisser, quand je parle de bas instinct ou de soumission à n'importe quels ordres reçus, ça nous renvoie à l'époque de l'occupation nazie, où un corps intégralement soumis a fait les tâches les plus immondes qu'on puisse demander à des fonctionnaires. Et les 100 000 policiers de l'époque, on peut dire qu'ils étaient 99,99% aux ordres du pouvoir. Et même s'il y a eu des résistants dans la police, il y a peut-être eu des résistants à titre individuel, mais ceux-là ont fait le même travail que les autres, sauf à être révoqués de l'institution. On passe rapidement sur la période. Ça, c'est pour montrer les limites. Hein. Parce que moi, je me souviens, étant tout gamin, de voir ces policiers qui, certains jours, paradaient avec la mitraillette sur l'épaule quand ils étaient à la chasse à un suspect. Alors, bien sûr, c'est pas la même police. En fait, on ne peut pas reprocher aux policiers actuels les dérives de leurs, comme ils disent, de leurs anciens. Mais qu'ils seraient tout prêts à se conduire de la même manière si on leur demandait. Et on a vu depuis la guerre d'Algérie, et ça n'a jamais cessé, à quel point ils étaient, tout empreints de convivialité envers ceux qui n'ont pas la couleur convenue. C'est-à-dire qu'il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a souvent de la haine. Et à toutes les époques, bien les policiers ont été fidèles à la consigne, sauf à deux périodes. Et ça vaut la peine d'en parler quand même. Quand il y a eu la grande grève des mineurs, les premières grandes grèves, en 1947-1948, et la grève dite insurrectionnelle des dockers de Marseille, en 1948, il y a des CRS qui n'ont pas marché au fouet. Parce que il faut savoir, parce qu'on ne le sait pas en général, c'est que les CRS ont été constitués à la fin de l'année 44 avec les pires salauds rescapés des GMR de la police de Vichy et des membres des milices patriotiques et des FTP. Ça fait un amalgame. C'est comme ça qu'on a constitué les CRS. Et quand il y a eu les grèves des mineurs de 47, grève des dockers de 48 à Marseille, il y a eu, ça a grogné dans les rangs. Et Jules Moc, à l'époque ministre de l'Intérieur socialiste, il a 10 ou 13 compagnies de CRS. Alors il y a eu des réactions. À plusieurs périodes, entre autres au début de la guerre d'Algérie, un des responsables de la police parisienne qui s'appelait François Rouve, qui était secrétaire général du SGP, qui a été révoqué parce qu'il avait demandé à ses troupes d'être beaucoup plus calmes. Et puis il y a eu la Fédération autonome des syndicats de police de Monat, qui de temps à autre, particulièrement en 68, rédigeait des tracts sur le thème « N'oubliez pas que sur l'autre côté de la barricade, il y a peut-être vos garçons et vos filles ». Et puis au fil du temps, surtout après le passage de Marcellin, eh bien, il y a eu très peu de velléité du syndicat de police pour vraiment s'opposer. Et leurs revendications, elles sont uniquement sur le salaire ou sur l'armement.
Dans une école de police, il faut aller en bac. Celui qui ne dit pas qu'il veut aller en bac, il passe déjà pour un démotivé. Il sortira de l'école mal placé. En bac, ils font que, eux, dans leur jargon, ils disent on est des chasseurs. On n'est pas comme les autres. Les autres, c'est les soldats. Avant, il y avait une bac ou deux. Un bac, c'est exceptionnel. Maintenant, il y a la bac civile, la bac tenue, la bac 75 qui couvre tout Paris. Il y a les bacs d'arrondissement. Il y a une bac dans le métro. Hein, bac jour, bac nuit. Il y a des bacs partout. Le sigle bac. Et je peux dire en toute franchise que pendant 3 années où j'étais de permanence de nuit, à l'époque où il y avait encore la division police judiciaire et sécurité publique, je n'ai jamais vu les bacs ramener des crimes. Brigade anticriminalité, ça devrait être pour ramener des crimes. Non, ils ramènent des délits au mieux, voire des contraventions. Quand ils sont en manque de crâne, en fin de nuit, ils ramassent des contraventions. Moi, j'ai vu des choses qui m'ont révolté. Hein, des bacs qui ramènent des vendeurs de poulbeaux ou des vendeurs de gris-gris à la sauvette ou des choses comme ça. Alors, ça sert à rien d'être bac, d'être armé comme un Playmobil pour ramener des vendeurs à la sauvette.
On ne devient pas policier impunément. On a fait le choix d'être policier en sachant que de l'autre côté de la rue, bien, il y a des gens qu'on va réduire au silence ou sur qui on va cogner. Et il faut déjà une mentalité particulière pour devenir policier. Alors la grande différence quand même par rapport à l'après-guerre, c'est que dans les années 50-60 encore, les policiers, c'était les fils de la classe ouvrière qui revenaient du service militaire, qui ne voulaient pas retourner à un boulot qu'ils avaient avant, et puis il y avait la garantie de l'emploi dans la police, mais qu'avec les crises économiques depuis 1973 et puis la montée du chômage, et bien souvent, ce sont des diplômés ou des gens formés qui deviennent policiers beaucoup plus que les ouvriers. De la même manière, c'était un peu le cas de la gendarmerie, c'était les fils de paysans qui étaient gendarmes. La gendarmerie aussi, le niveau semble avoir monté. Mais le niveau intellectuel des forces de l'ordre, ce n'est pas une garantie de sécurité pour les usagers, entre guillemets.
Est-ce que tu penses que la police française est brutale ?
Je ne suis pas trop au courant de ce qui s'est passé. C'est vrai que de temps en temps, il y a toujours des faits divers, mais bon... C'est les médias qui en parlent pour savoir exactement, je prends pas de parti, pour savoir exactement la vérité, c'est pas toujours évident. Puisqu'un coup on dit que c'est la police, après on sait pas trop ce qui se passe en fait.
Enfin, j'entends des gens dire que la police est brutale, qu'en garde à vue on frappe, qu'il y a de la discrimination raciale, tout ça, mais moi j'ai jamais eu. Ça m'est jamais arrivé quoi. À chaque fois que j'ai eu rapport avec la police, ils ont toujours été corrects. Ça a été quoi.
Moi la police, pas grand chose à en dire. J'ai de la famille dans la police, tout va bien, enfin, je sais pas, j'ai jamais eu de problème particulier avec les policiers, donc ça va. Non.
Ils viennent s'acharner sur des jeunes maghrébins, et ça c'est pas bien.
C'est quoi, attends, rien que le fait, par exemple, une fois comme ça, je vends la voiture, je les ai pas calculés, j'ai craché par terre parce que j'avais trop de salive dans la bouche. Le type il est pas descendu prêt à mettre des coups de matraque. Et les pires de tous, les pires des bâtards, c'est les flics à vélo, ça c'est les pires de tous.
C'est terrifiant comment on devient un serviteur de l'ordre. Je vais faire un saut de plus de 150 ans dans le temps, plus que ça. Après la révolution de février 1848, c'est la Deuxième République, il y a dans le gouvernement, pour faire plaisir un peu aux insurgés, un ministre ouvrier, c'est l'ouvrier Albert. Et l'ouvrier Albert, pour exister, il crée les ateliers nationaux. On embauche des jeunes chômeurs. Et comme il n'y a pas de boulot, ils creusent des trous le matin, puis ils les rebouchent le soir. Puis au bout de quelques semaines, les députés de la droite qui trouvent que c'est scandaleux, que ça coûte énormément d'argent, et qu'on va leur proposer d'entrer dans un corps qu'on va créer, la garde mobile. Et beaucoup de ces jeunes vont entrer dans la garde mobile, et ce sont ceux-là qui vont écraser l'insurrection ouvrière de juin 48. Donc on devient très vite serviteur de l'ordre.
jeunesse héroïque, arme ton flagon pour la République. En avant, mon blond. Le maire et le garde champêtre disaient les rouges sont des loups. Vos moutons, ne songez qu'à paître, notre berger veille sur nous. Notre berger n'était qu'un ange, le vieux Judas nous a trahis. La République a pris sa tâche, on va défendre le pays. Jeunesse héroïque, arme ton flagon pour la République. En avant, mon blanc.
Tout à l'heure, je disais qu'on n'est pas dans un état policier, mais on est quand même dans une société policière. Si on regarde un peu tout ce qui tourne autour de nous dans la rue, il y a, même si Sarkozy a réduit les effectifs avec la RGPP, la révision des politiques générales des politiques publiques, il y a 5 ou 6 000 policiers de moins qu'avant. D'ailleurs, les socialistes sont en train d'embaucher. Il y a à peu près 140 000 policiers, hommes et femmes, dont 16 ou 17 000 CRS. Il y a 100 000 gendarmes, dont à peu près 15 000 gendarmes mobiles. Il y a les polices privées, genre métro, ou plus policiers, les SNCF. Il y a à côté de ça, donc les policiers municipaux, ils sont à peu près 20 000, dont beaucoup maintenant sont armés, et qui réclament de plus en plus de l'armement, ils réclamaient des tasers récemment. Il y a le plus préoccupant, à côté de ça, c'est les quelques 175 000 salariés des sociétés privées de sécurité, qui sont bien souvent des petits ou des grands voyous, mais qu'on retrouve parmi les couleurs d'affiches de la droite ou dans les manifestations pour cogner. Il y a tout ça à la fois, ça représente, tout ça est armé, et si on y ajoute, depuis la disparition de la conscription, il y a une quinzaine d'années, l'armée de métier, dont certains généraux disent que l'ennemi n'est pas seulement au fond de et qu'ils peuvent être disponibles pour établir l'ordre. J'avais posé la question un jour, j'avais dit en période troublée, un Français sur deux peut devenir flic, l'autre l'est peut-être déjà. Ça laisse pas beaucoup de place.
La férocité policière ne découle pas d'accès de fureur spontanée. Ce n'est pas la dérive résiduelle de minorités radicalisées de la police. C'est le produit d'un système de techniques expérimentées, légitimées et soutenues par des protocoles rationalisés. Les BAC sont formés pour produire certaines forces de férocité susceptibles d'assurer la reproduction des rapports de domination de classe, de race et de genre, en étant elles-mêmes le produit de ces dominations. La police des cités fonctionne comme une application technique de la férocité des classes dominantes sur le corps des pauvres. L'agressivité et l'arrogance de la BAC font ainsi mécaniquement écho à l'agressivité du capital et à l'arrogance bourgeoise. La police de choc s'étend comme courroie de transmission de la férocité bourgeoise. Le BAC-E justifie sa brutalité comme l'idéologie patronale justifie la brutalisation des travailleurs revendicatifs, comme l'idéologie esclavagiste justifie la brutalisation d'un esclave insolent, comme l'idéologie paternaliste justifie la brutalisation des enfants indisciplinés, et comme l'idéologie patriarcale justifie les violences faites aux femmes insoumises. La domination masculine et hétéro-patriarcale, comme la domination blanche et raciste, structure le fonctionnement de la police en général, et particulièrement de la police des cités, gardienne obsédée des strates les plus menaçantes pour l'ordre impérial. La correspondance entre la figure de la cité et celle de la femme insoumise dans l'idéologie dominante est frappante. La représentation de la cité comme une entité féminine, sensible, hystérique, qui s'émeut sans raison et qu'on peut frapper pour la calmer, traverse toute la société impérialiste et en particulier ses appareils répressifs. La BAC expérimente quotidiennement le renforcement du pouvoir policier par l'industrialisation d'une férocité virile, blanche et bourgeoise.
Plastique, les bastons sont plastiques. Mitraille, en guise de mitraille. Y'a rien de plus pratique, de plus pratique pour calmer la canaille. Au nom de notre rage, disons le sens en bas. Au nom de notre rage, disons le sens en bas. Disons le sens en bas. Rage. Pas de flics dans les quartiers, pas de quartier pour les flics, pas de quartier pour les flics, pas de flics dans le quartier, pas de flics dans le quartier, pas de quartier pour les flics. Plastique, les flics, plastique.
J'ai cauchemardé. Il y avait des gendarmes partout. Plein, plein, partout. J'ai cauchemardé de gendarmes.
Marseille, le 15 octoctre.
La marche
quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main.
Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche.
Sur les problèmes, ils sont les leurs et qui les touchent chaque jour.
Pacifique,
l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font
l'objet. Des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé. Et pourtant, c'est par la sueur.
Kader de Vitry, 15 ans, tué en 1980. Lawari Ben Mohamed, tué par un CRS à Marseille en 80. Abdenbi Gemia, tué par un beauf à Nanterre en 82. Ouedia Chichi, 18 ans, tué à Lyon en 82. Toufi Guanès, 9 ans.
Je crois que l'histoire du mouvement beurre, elle commence déjà par cette horreur, par la police, la justice, parce que pendant toutes les années 83, 84, 82, il y a eu le mouvement des Minguettes, et c'était pas par hasard non plus, c'était la suite de crimes, de violences policières, de jeunes qui étaient matraqués. Les assassins d'Arabes en France en prenaient pour 6 mois. On était plus punis à voler un autoradio qu'à tuer un Arabe.
En 1983, 2 ans que la gauche est au pouvoir et la magie n'opère plus. C'est le tournant de la rigueur, on a bouffé les roses, il ne reste que les épines. Le Front National commence son ascension et la France se rend compte que les immigrés des ex-colonies ne vont pas partir. 1983, une génération arrive à l'âge adulte, 20 ans après la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Une génération dont les parents sont venus travailler en France dans des conditions difficiles. Beaucoup de ces enfants ont connu les bidonvilles et les cités de transit. C'est dans une dynamique de lutte sur les questions du logement, sur les conditions de vie, contre les crimes racistes et sécuritaires, qu'apparaît la marche pour l'égalité contre le racisme. Plus qu'une simple marche, c'est la pointe émergée d'un mouvement de fond, d'une génération qui veut trouver sa place dans la société. Entretien avec Momniste Abdallah, journaliste indépendant, cofondateur de l'agence Immedia et participant à cette marche. L'entretien est entrecoupé d'extraits du film 12 France, chronique du mouvement Beurre, un film que vous pouvez commander auprès de l'agence Immedia.
De cette marche, il y a l'événement le 20 juin 1983 au Minguette, un soir de Ramadan, il faisait chaud, une intervention de police, un maître chien qui envoie un chien sur un jeune, Toumi Djedja, donc c'est un jeune des Minguettes, il essaie d'intervenir pour bloquer le chien qui est en train de croquer un autre jeune. Et à ce moment-là, le maître chien, un policier, il tire sur Toumi, le blesse grièvement d'une balle au ventre. Or, Toumi Djedja était un jeune des Maguettes qui était connu localement et dont on avait déjà parlé suite à des affrontements entre des jeunes et la police. Donc, le 21 mars, il y a deux descentes de police, deux descentes non coordonnées, paraît-il. Les jeunes qui étaient là, ils voient les flics s'affairer autour du local. Ils avaient un petit local, défoncer la porte et tout ça, et donc ils s'attroupent. Et les flics qui deviennent agressifs avec des mères de famille. Et là, les choses partent en vrille. Il y a des affrontements, bref, mais assez violents, où les flics à l'époque donc prennent une raclée. C'est une déroute. Et dans les légendes, comme ça, ça se fait pas. Et donc, dans la ville, il y avait la rumeur d'une contre-offensive militaire où flics et gendarmes reviendraient massivement dans la cité. Attention. Et pour éviter l'engrenage de la guéguerre entre jeunes et police, un groupe de jeunes de la cité, des Maguettes, décide une grève de la faim. Du 28 mars au 12 avril, ils exigent des négociations avec les pouvoirs publics. Ils s'adressent aussi à Mauroy, à l'époque Premier ministre, pour négocier autour des contentieux entre jeunes et policiers, contentieux avec un certain nombre de magistrats aussi, qui poursuivent les jeunes, dans une logique de règlement de compte, plus poser sur la table la question de la réhabilitation de la cité, de la participation des jeunes et des habitants à cette réhabilitation, et évidemment la question du chômage, enfin du travail, vu que les gens étaient massivement chômeurs à l'époque. Ensuite, à la blessure de Toumi Djedja, les gens se disent, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on dit les gens se posent la question, c'est effectivement d'abord les Maguettes, mais il y a aussi une mise en relation avec des situations ailleurs qui permettent de comparer. C'était une période où on favorisait la circulation et la fluidité des idées pour comparer les situations et essayer de s'inspirer des acquis des uns et des autres. Pour essayer de créer un rapport de force favorable. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait les radios libres, mais il n'y avait pas ni les portables, ni Facebook, ni je ne sais pas quoi, les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Quand on faisait circuler, c'était physique. Il y avait par exemple des membres de l'association Gutenberg, de la cité de transit Gutenberg de Nanterre, et donc qui étaient eux-mêmes impliqués dans la lutte pour que justice soit rendue à Abdenbi Gemia, on en parlera, et pour le relogement des habitants des cités de transit, avec une idée très précise de, on va être relogé en fonction du désirata des familles, pas simplement être baladé d'une cité de transit ou d'un HLM à l'autre, etc. Et donc aussi une idée de pouvoir, prise de pouvoir sur la forme de l'habitat à venir. Il y avait des gens de Marseille, par exemple, qui, suite à la mort de Lawahri Ben Mohamed en 80, déjà c'était une vieille histoire, avaient monté une pièce de théâtre qui s'appelait Yaolidi. Donc comment s'approprier des formes culturelles pour exprimer sa rage de la situation et aussi à travers une pièce de théâtre, par exemple, qui aussi bien une troupe culturelle qu'un truc social, qui agit à la fois localement, puisque la composition de la troupe, c'était des jeunes, mais aussi pas mal de femmes et de mères. Donc voilà, à travers le théâtre, on raconte aussi dans Yaolidi pas seulement la mort de Lawahri et la douleur, etc., mais aussi des scènes de vie de la cité. La légende est dit que c'est Toumi Djedja, dans une discussion avec le père Christian Delorme, dit l'écurie des Minguettes, qui a eu la révélation, voilà, offert une marche. Bon, l'intérêt, c'était, en même temps, c'était d'inscrire ce projet dans une espèce de, d'épopée historique, comparé à Gandhi, la marche de Gandhi ou à la marche de Martin Luther King. Enfin, bon, il y a cette dimension lyrique, historique. Derrière, il y avait aussi une manière, de, pour Delorme et quelques-uns, de faire passer une idéologie d'intervention, celui de la non-violence, qui au départ n'était pas forcément la culture... la culture des Lascars de cité, qui était dans une culture de, d'affrontement direct avec la police et de rapport de force. Et en même temps, au Minguette, les gens, enfin surtout les jeunes, ils sentaient bien que militairement, d'un point de vue militaire, à un moment donné, ils ne pourraient pas faire la différence. Et par la suite, dans la préparation de la marche, la dimension de l'auto-organisation des jeunes et des quartiers est complètement sabordée au profit de ce thème dit fédérateur de la fraternité, et de démontrer que à travers la France, il n'y a pas que des racistes, etc. Et toute la mythologie après de la marche et des médias va développer là-dessus. Il y avait cette double dimension, une marche pacifique, un peu impliquant des milieux de la, on va dire, des droits de l'homme, donc humaniste, chrétien de gauche, Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Et de l'autre côté, l'appel à une espèce de coordination des comités de lutte sur ces questions-là qui existaient déjà, coordination plus autonome qui était de l'auto-organisation.
C'était la jeunesse qui était dans la rue. Et je pense que les politiques, à ce moment-là, se sont dit, alors si c'est les Arabes, les jeunes Arabes, qui sont capables de mettre des jeunes dans la rue, c'est pas possible. Il faut absolument tout faire pour qu'ils n'en prennent pas la direction. À ce moment-là, on n'a pas compris, quoi. On n'a pas compris que toutes ces forces extérieures allaient tout faire pour mettre les Arabes au pas. Et le Parti Socialiste a tout fait, puisque la jeunesse mobilisée, pour avoir un mouvement antiraciste qui soit moral.
À l'époque, donc, la raison d'être de la marche pour l'égalité, c'était la violence et l'impunité de la police. Et l'acharnement de la justice, d'un côté condamner des voleurs de voitures, comme on disait, et de l'autre libérer les policiers. Bon, c'était vraiment tout un discours sur la justice à deux vitesses. Et naturellement, on développait à la fois un travail sur la marche, comme une forme d'action, et un travail d'organisation sur les affaires police-justice. Tout le mois de juillet, au moment par exemple où Toumi Dejia était encore à l'hôpital, il y avait des actions sur la question de la justice, notamment sous la forme de forum justice, où se discutait comment intervenir sur les questions de police et de justice, que ce soit sur Toumi Dejia, parce qu'il faut savoir que, bien que Toumi Dejia soit à l'hôpital et qu'il était blessé, et qu'il y avait ces histoires de projets sur la marche et tout ça, mais en même temps, l'acharnement, y compris judiciaire, sur Toumi continuait. C'est-à-dire que même sur son lit d'hôpital, il reçoit un mandat d'amener d'un juge qui s'appelle Crétin, pour des affaires antérieures qui tendent à crédibiliser l'histoire que, de toute façon, Toumi, comme tous ses copains, c'est des délinquants.
La mort ne vient pas seule.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Et le regard des curieux comme unique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit:
je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient.
Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine. Tiens, un ancien para, quelques arrivistes.
Ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh.
Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne
comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas
seule. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau.
Charognard.
Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on a un être humain même si on est truand. Que ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère?
Dis un père béret basque, un jeune besoin de cuir.
Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère?
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
30 ans après, je m'aperçois que les images que Immédiat avait fait tourner à l'époque, que l'idée de la marche pour l'égalité et l'idée d'associer des campagnes contre les crimes racistes sécuritaires existait déjà à l'époque. Les images d'Immédiat le montrent, le frère de Wahida Chichi dire en présence des copains de Toumi Dieja, des jeunes des Minguettes, donc en juillet, dire voilà, il faudrait faire un rassemblement des maires sur l'exemple des folles de mai en Argentine, rassembler les familles des victimes pour qu'elles puissent s'organiser, essayer de créer une coordination nationale et interpeller le pouvoir politique, en l'occurrence Robert Badinter, ministre de la Justice, sur les questions de l'impunité, soit des crimes policiers, soit des crimes beaufs. Alors la question, c'est est-ce qu'il fallait dénoncer la dérive humanitaire, moraliste de la marche, ou est-ce qu'il fallait la dénoncer ou laisser faire et s'occuper de nos oignons, en disant que de toute façon, la réalité, enfin, on sait qu'on a raison et que la réalité va rattraper la marche. C'est un peu le pari qu'on a fait. Donc on a organisé des forums justice pendant la marche, une réunion publique organisée autour de la question savoir comment est-ce que les familles, les amis des victimes et les militants ou les gens concernés des quartiers peuvent se réapproprier les affaires. Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dessus et pas simplement rester des spectateurs passifs des affaires gérées par par les médias ou par les avocats ou par les juges d'instruction, etc. Comment, quel type d'intervention est-ce qu'on peut avoir sur les affaires pour en changer bien sûr le sens et pouvoir gagner. Voilà. Et donc c'est un moment fort de, d'information sur les affaires et un moment de contre-pouvoir. Les familles, par exemple, qui participent à ces forums justice, ils en ressortent avec une pêche et avec l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de mettre en commun les peines. Ce n'est pas simplement un moment émotionnel. Il y a aussi un moment émotionnel parce que les familles qui craquent, etc. Mais c'est aussi la formule, c'est comment aller au-delà des pleurs et agir pour gagner. Agir, pour, en tout cas, pour fixer un cap qui permette de faire bouger les lignes, etc. Y compris de faire des propositions. Et donc on s'aperçoit souvent qu'il y a l'action de type juridique, mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège du juridico-juridique. Bien souvent, la réponse peut être politique. Et d'où le principe d'interpeller le pouvoir politique. Par exemple, pour l'étape lyonnaise, le 28 octobre, le premier anniversaire de la mort de Wahid Hashishi. Donc, 28 octobre 83, un an après, Forum Justice à Vaux-en-Velin. La marche arrive le lendemain sur la région lyonnaise. Mais donc, il y a une demi-douzaine de marcheurs, dont Toumi déjà, dont Bouzid, enfin bon, dont Farid, les principales figures de la marche qui décrochent de la marche et qui viennent participer au Forum Justice. Soit dit en passant, la coordination officielle de la marche, contrôlée par la CIMAD de Lyon, boycotte complètement le Forum Justice, n'en parle pas. Vraiment, c'est révélateur. Et à l'époque, on se disait que les gens sont débordés, qu'ils ne pensent pas à tout, mais en fait, quand on regarde bien, ça a disparu des écrans radars. Donc, il y avait une volonté délibérée de la CIMAD de Lyon et de ses responsables, etc., de minimiser. Mais bon, le Forum Justice a eu lieu à Vaux-en-Velin. Il y a des familles de Marseille qui étaient venues, qui se sont dit « il faut qu'on en refasse un à Marseille ». Donc, pendant que la marche elle montait sur Paris, les Marseillais sont redescendus à Marseille, ont organisé un Forum Justice le 24 novembre. Il y a eu un Forum Justice organisé à Levallois le 2 décembre, donc la veille de l'arrivée finale à Paris. Donc voilà, l'idée s'est développée, s'est étendue pendant même la marche. Au mois de novembre, c'est l'histoire du Bordeaux Vintimille. Il y a un touriste algérien, de, je crois 25 ans, Habib Grimzi, qui se fait défenestrer par trois légionnaires. Et là, c'est le crime raciste le plus abject. Et là, il y a une levée de boucliers en France. Donc là, la question des crimes racistes en 83, ça, vraiment, c'était identifié, un, par la mort de Toufi Gouanès, tué par un beauf, un tonton flingueur à la cité des 4000 à la Courneuve le 9 juillet 83, et la mort de Habib Grimzi, tué, Faderworm, dans le Bordeaux Vintimille. Voilà, deux trucs qui passent pas et dont non, les médias, les mass médias ont quand même beaucoup parlé, quoi. Et du coup, c'est là où on dit, voilà, la réalité des crimes racistes, mais aussi des violences policières, rattrape la marche. Parce qu'il y a, comment, il y a Habib Gamzi, il y a aussi une descente de CRS aux Minguettes, dans un fast-food, pour une histoire de dope, ou je sais pas quoi, et une rafale de pistolet mitrailleur qui part. Heureusement, il n'y a pas de blessés, etc. Mais bon, dans la cité... des Minguettes, ça fait grand bruit. On est fin novembre, les gars ils sont au téléphone, ils disent ouais mais vous marchez comme des bouffons et les flics eux, ils paradent ici dans la cité. À ce moment-là, les gars des Minguettes ils ont failli arrêter la marche. Ils disent attendez, on marche un truc blabla sur le pacifisme. Et les gars ils viennent au pistolet mitrailleur dans leur lieu de vie. Donc à partir de ces deux événements, Habib Gamzi et plus les CRS au fast-food, la question de la police et de la justice devient la préoccupation principale des marcheurs, y compris. Et à l'arrivée, ce qui se passe à l'arrivée, c'est aller au-delà de nos espérances, à la limite, c'est qu'il y a le premier rang, c'est les marcheurs, les minguettes, ça. Le deuxième rang, c'est les familles des victimes des caméras racistes sécuritaires, familles arabes, familles antillaises, familles africaines, familles françaises, blanches, etc. Avec les pancartes avec les noms, parfois avec la photo des familles, avec la situation, etc. Et on oublie quand même de dire que à la fin, au niveau de l'entretien avec Mitterrand, ou avec Georgina Dufoy à Montparnasse, on dit oui, la marche elle a permis d'obtenir la carte unique de 10 ans. Ce qui, pour les immigrés en situation régulière, on va dire. Mais l'autre aspect, c'était aussi un engagement pour faire en sorte que les crimes racistes cessent et pour qu'il y ait des possibilités nouvelles d'intervention en justice par rapport aux crimes racistes ou sécuritaires. Et il n'y a pas eu de publicité faite autour de cet aspect-là, parce que les gens ne savaient pas sous quelle forme ça allait prendre. Mais en réalité, il y a eu des travaux à gauche, à droite, et en loose day quasiment, même le code pénal a été changé pour intégrer les violences racistes comme caractère aggravant. Auparavant, ce qui était poursuivi, c'était l'injure raciale, avec la loi de 72, etc. L'aspect pratique, c'était aussi que les associations puissent se constituer partie civile dans ces affaires. Alors, c'est quoi l'intérêt de se constituer partie civile? C'est d'accompagner les familles, d'avoir accès aux dossiers et de pouvoir donc intervenir dessus, quoi. Les parties civiles ne sont pas tenues au secret de l'instruction. C'est quand même un détail à ça. À l'époque, le pouvoir avait peur d'une trop grande autonomie. Ils avaient peur de la spontanéité aussi de ces initiatives qui risquaient d'être incontrôlables. Donc même pour cette revendication-là, ils ont adjoint d'une limite en disant que les associations devaient avoir 5 ans d'existence. Ce qui paraît, hein, puisque bon, les associations qui étaient actives, elles venaient d'être créées.
Voilà, c'était Mognis Abdallah qui nous a parlé de la marche pour l'égalité et la justice de 1983. Avant ça, vous avez entendu un texte de Mathieu Rigouste issu de son livre « La domination policière » publié à La Fabrique, et Maurice Rachfus qui nous a raconté pourquoi il n'aimait pas la police de son pays. C'était donc un premier volet d'une réflexion sur la police et l'ordre qu'elle défend. La semaine prochaine, nous reviendrons sur 20 ans de crimes policiers. Pour finir, courage à toutes celles et ceux qui se battent contre ça et le reste, contre la police et son monde, et courage à celles et ceux qui, même sans se battre, subissent la violence de l'ordre social, de sa police et de sa justice. Il paraît qu'à la fin, c'est nous qu'on gagne.
La vie n'est rien qu'une vallée de larmes, charmant endroit pour passer ses vacances. Faut être fou pour y trouver des charmes, décidément. Je préfère la Provence. J'ai essayé la patience et la rage. J'ai essayé la chèvre et puis le chou. J'ai essayé la poire et le fromage. J'ai essayé le chien et puis le loup. J'ai essayé le plaisir et la gêne. J'ai essayé la pluie et le beau temps. J'ai essayé l'amour et puis la haine, mais l'un vaut l'autre et réciproquement. La vie n'est rien qu'une vallée de larmes, charmant endroit pour passer ses vacances. Faut être fou pour y trouver des charmes, décidément. Je préfère la Provence. J'ai essayé le vinaigre et les mouches. J'ai essayé moi-même et puis autrui. J'ai essayé les oreilles et les bouches. J'ai essayé la tranche et puis la mie. J'ai essayé la science et la conscience. J'ai essayé l'alpha et l'oméga. J'ai essayé l'alcôve et la potence. J'ai essayé le vice et le versa. La vie n'est rien qu'une vallée de larmes. Charmant endroit pour passer ses vacances. Faut être fou pour y trouver des charmes. Décidément, je retourne en Provence.